À voix nue, aujourd'hui, Toni Morrison s'entretient avec Clémence Boulouk. Cette semaine, dans À voix nue, nous sommes aux côtés de Toni Morrison à la faveur de son passage à Paris. La romancière américaine, prix Nobel de littérature en 1993, est en effet l'invitée du musée du Louvre. Elle en est la programmatrice pour des conférences tout au long du mois de novembre et une exposition qui durera jusqu'en janvier 2007. C'est autour des thèmes de l'appartenance, de l'ancrage, de la dépossession et de l'exil que Toni Morrison a voulu développer son parcours muséal et idéal. Être étranger chez soi, demeure de l'étranger, telles sont les thématiques qu'elle fait résonner dans et hors les murs du musée. Cette première de nos rencontres avec Toni Morrison ira chercher les racines de ce sentiment d'étrangeté dans son itinéraire d'enfant du Midwest, en un parcours où se rencontrent aussi les échos d'un Sud en partage, ainsi que la part sombre de l'Amérique des années 30 aux années 50. Toni Morrison, vous naissez Chloé Anthony Wolford en février 31 à Lorain, Ohio. La famille de votre mère a quitté l'Alabama en 1912. La famille de votre père vient, elle, de Géorgie. Ce sont des thématiques que l'on retrouve dans le chant de Salomon et dans Jazz également, vos romans où les couples arrivent souvent dans le Nord pour suivre les persécutions du Sud. À travers l'itinéraire de votre famille, est-ce que c'est aussi tout un courant de l'histoire noire du début du siècle que vous avez perçu ?
The story of my family's movement from the South to the North is typical of many, many African Americans. Knowing about it as a child, it was fearful, interesting, frightening, and daring, and I thought peculiar to my own family. So it was later that I learned that flight from situations of life that were intolerable was a typical one. And twice I made reference to such a journey in my fiction.
Oui, toute l'histoire, les pérégrinations de ma famille, le fait qu'elle ait cessé de quitter le Sud pour aller vers le Nord, c'est très représentatif de toute la population afro-américaine. Quand j'étais enfant, j'ai vécu ça comme une expérience qui m'emplissait de crainte, à la fois qui me fascinait, que je trouvais très intéressante. Je trouvais ça aussi assez aventureux, audacieux de partir comme cela. Et puis très étrange, je pensais que c'était particulier à ma famille. Or après, j'ai bien compris que c'était un schéma que l'on retrouvait dès lors que ces populations, les Afro-Américains, ont souvent dû fuir des situations intolérables. Et c'est vrai qu'à deux reprises, j'ai fait directement référence à ces pérégrinations familiales dans mes œuvres de fiction.
Mais est-ce qu'il y avait un legs du Sud dans le comportement de vos parents, des réflexes qui étaient aussi peut-être ceux de la peur?
Well, what was interesting in their behavior and contradictory, because they brought with them the culture, the food, the language, the community associations, etc. But then I noticed that my father, who came from Georgia and talked about Georgia as absolutely the worst place that anyone could live for black people.
Oui, je trouvais leur récit à la fois intéressant et très contradictoire, ce que je décelais dans leur comportement. Bien sûr, ils avaient emporté avec eux toute leur culture, la cuisine du Sud, le langage, le parler du Sud. Mais je me rappelle également très bien que mon père, qui venait de Géorgie, lorsqu'il me parlait de cet état, me disait que c'était le pire endroit où vivre pour un noir.
However, he went back every year to visit his relatives. My mother spoke of her youth in Alabama as idyllic, nature, stories, and she never went back. ever.
Et ce qui est contradictoire également, c'est que malgré ce que disait mon père de l'état de Géorgie, eh bien, il y retournait chaque année pour rendre visite aux membres de sa famille qui étaient restés là-bas, alors que ma mère me relatait sa jeunesse en Alabama comme une période vraiment idyllique. Elle parlait de la nature omniprésente, de ses histoires tissées autour d'elle qui l'entouraient. Or, elle n'est jamais retournée en Alabama.
Est-ce que c'est aussi à travers le parcours de vos parents que vous avez été rendu sensible à cet exil en son propre pays?
Perhaps, but I think it was something much more contemporary. Katrina, that took place in New Orleans, I was so intimately related in my mind to the castaways and the lesser people and the contempt in which such people are held. I didn't associate that kind of brutality with singular stories in my family because they were so tough, they were so strong and, you know, resilient.
Oui, peut-être, mais la source en est aussi plus contemporaine. On est encore sous le coup de l'ouragan Katrina qui a frappé la Nouvelle-Orléans. Et tout ça est intimement lié à cet univers que j'évoque de ceux qui sont rejetés, qui sont traités comme des parias ou des sous-hommes et qui apparemment ne reçoivent que du mépris. Mais ce type de brutalité, je ne l'avais jamais associé aux histoires singulières de ma famille, curieusement.
Alors, Lorraine, où vous grandissez, est une ville typique du Midwest. Elle n'est ni ghetto ni plantation, selon vos propres termes. C'est un univers de migrants, mais le monde qui vous semble le plus merveilleux, en fait, c'est celui de votre mère et de vos tantes, de leurs récits. Est-ce que cet environnement cosmopolite vous a donné la mesure et la valeur de votre propre héritage?
You have to understand that I was not interested in that legacy ever until I began to write. It was just my family and their idiosyncrasies and their stories. They came into play when I was looking for those silences and those absences in the literature. And then naturally what I filled it with was my recollections, my memories of my own people.
Mais il faut que vous sachiez d'abord que cet héritage ne m'intéressait pas le moins du monde tant que je ne m'étais pas mise à l'écriture. Et moi, ce qui me plaisait, c'était effectivement cet univers familial avec ses idiosyncrasies, toutes les histoires que l'on se racontait. Mais ce n'est qu'après, lorsque je me suis mise à rechercher dans la littérature, ce silence et cette absence que je ressentais de façon très forte, qui affectait mon peuple. Et j'ai commencé à vouloir remplir ce silence et cette absence avec mes propres souvenirs.
So old-fashioned to me. So cobwebby when I was listening to them. I was an avid reader, so I had books and then I had those stories. And the stories were like little fairy tales, scary stories, etc. I had no appreciation for them until much later. At the time, it was all part of family lore and routine, etc. I did not value them at the time.
Et puis ces histoires, bon, même à l'époque, elles me semblaient quand même un petit peu poussiéreuses, un peu démodées, comme ça, un peu surannées. Je savais déjà lire, donc j'avais d'un côté mes livres, et puis toutes ces histoires qui me nourrissaient autour, dans la bouche de cette grand-mère, ses tantes. Alors parfois c'était un peu comme des contes de fées, d'autres fois des histoires vraiment à faire peur. Mais sur le moment, je ne le ressentais pas comme ça. C'était juste un trait de ma famille, de mes proches, et je ne leur accordais pas plus de valeur que cela. Je les ai vraiment appréciés beaucoup plus tard.
Toni Morrison, dans votre foyer, donc, vous dites qu'on accorde une grande importance aux contes, à l'oralité, mais aussi à des récits de rêves et à leur analyse. Est-ce que c'était aussi un accès sans peur à l'inconscient à la fois individuel et collectif?
I don't think it had quite that significance on a large scale. We didn't have any other way to entertain ourselves. There was no television. We had a little radio, but not even early, probably in the 40s. I can remember not having a telephone until, you know, I was in high school. So people, and not only black people, I lived among immigrants, Polish people, Italian people. They were always running their mouths and telling stories about their country or about their family. But you're right in that the process of listening to stories, and more importantly, to having to retell them. Because as children, adults would call upon us to tell and repeat stories. So you have to change them, re-emphasize certain things, edit them. I mean, you didn't have that language, but that's what was happening, because they were judging our ability and our performance and our success in being able to tell a story.
Oui, je crois pas qu'à l'époque ça ait vraiment une portée si profonde. Je crois que c'était simplement une façon de se distraire. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas la télévision chez moi. On a eu une petite radio, mais que à la fin des années 40. On a eu le téléphone que lorsque j'allais au lycée. Et tout autour de moi, dans le quartier, d'ailleurs, ce n'était pas propre à la population noire, c'était toute la population immigrante qui vraiment se régalait de toutes ces histoires. Il y avait les Polonais, les Italiens, ils avaient besoin d'évoquer leur pays, leur famille. Donc c'était vraiment une tradition dans tout le quartier, dans toute la ville. Et puis, il n'y avait pas seulement tout ce processus qui consiste à écouter une histoire, il y avait aussi la re-narration, parce que les adultes demandaient souvent aux enfants de re-raconter leurs histoires, et c'était un petit peu pour tester leur capacité, justement, à sortir un récit, à raconter quelque chose, voir comment ils reprenaient à leur compte ou modifiaient certains termes, insister sur une séquence dans l'histoire ou une autre. C'était un peu un petit jeu comme ça.
Alors ces récits, vous le dites, Toni Morrison, sont aussi une façon d'oublier un quotidien un peu âpre. Parce que vous grandissez pendant la Grande Dépression, pendant ses conséquences, et votre père est soudeur, il multiplie les travaux et les expédients pour faire vivre sa famille de 4 enfants. Parfois le foyer dépend des aides de l'État. Alors est-ce qu'il est vrai que votre mère a un jour écrit au président Roosevelt pour se plaindre de la piètre qualité de la nourriture offerte pour les programmes alimentaires?
Yes, she did. They called it relief in those days, which is a much nicer word, actually, than welfare. It was a relief, sort of temporary. Yes, it was during the Depression. The times were difficult. The stories, I think, helped us anticipate hard times, confront hard times, not to escape them, but to know that that was out there, whether they were formed as ghosts or demons or mean people. And we were enabled and empowered to sort of look at life in this very not blind, you know, with your eyes wide open. They were cautionary tales and they kept you awake and alert.
Oui, c'est vrai qu'elle l'a fait, elle s'est plainte effectivement de la mauvaise qualité de la nourriture. À l'époque, vous savez, on n'appelait pas ça l'aide sociale, on appelait ça en anglais relief, c'est-à-dire, ça veut dire soulager, c'est l'idée de secours, c'est un plus joli mot. Bon, c'est vrai que c'était la dépression, les temps étaient durs, et je crois que ces histoires nous aidaient à regarder plus loin vers l'avenir, et aussi à nous confronter à cette réalité. Non pas à la fuir, ce n'était pas pour s'échapper de la réalité, mais au contraire en découvrant dans les histoires des démons, des fantômes, d'horribles méchants, etc. Eh bien, je crois que ça éduquait les enfants à les rendre un petit peu plus prudents, à ce qu'ils se méfient et en même temps à ce qu'ils regardent vers l'avenir, mais les yeux grands ouverts.
The story about my mother writing to Franklin Delano Roosevelt about some meal, cornmeal, I think, that had bugs in it. It was typical of her and members of my family. Because she got a result, actually. She wrote a letter to the president complaining about the quality, and he did not write back, but somebody in the bureaucracy did. And eventually the woman who was handing out this food got the letter or got the information. But my mother and my father gave us instantly the sense that no matter how big the bureaucracy was or the forces that were against us, we could do something about it. You could write the president. If a man put an eviction notice on our door, which several times happened, my mother went outside and tore them off. I mean, we still got evicted, but I had this feeling some white man chased me and my sister up the stairs, and my father was there, and he threw him down the stairs and took our tricycle and threw it after him. So I always felt that you didn't take it. My uncle, John Willis, made it his business to go into every new store in that town, ice cream parlors, restaurants, to make sure that they were not refusing service to black people. My mother went to every open theater to make sure that she could sit anywhere she wanted. They went to the swimming pools to make sure.
Et donc c'est vrai que cette histoire est tout à fait véridique. Oui, ma mère a donc écrit à Franklin Delano Roosevelt pour se plaindre de la présence notamment d'insectes dans de la farine de maïs qu'on nous distribuait. Et ça, c'est vraiment typique de ma mère et d'autres membres de ma famille. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a obtenu un résultat. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas le président en personne qui lui a répondu, mais quelqu'un de l'administration s'est donné la peine de lui répondre. Et au final, la femme qui, sur place dans notre ville, distribuait ses aliments de secours, a également eu l'info, donc elle était au courant. Et ce qui était formidable avec ça, c'est que c'était très rassurant pour des enfants, parce que mes parents nous montraient sans cesse qu'on n'avait pas à se laisser faire, ou même si des forces colossales étaient contre nous, qu'on se sentait écrasé par une bureaucratie ou autre, ils m'ont donné le sentiment qu'on pouvait toujours tenter quelque chose. Par exemple, lorsque un avis d'expulsion était punaisé sur notre porte, bon, ma mère l'arrachait sans autre forme de procès, on se faisait quand même expulser. Je le sais, mais enfin, au moins, elle me montrait qu'on pouvait un peu protester, résister, se battre. Une fois, un homme blanc nous a fait peur à ma sœur et moi. Il nous a chassés dans l'escalier comme ça. Et mon père l'a surpris. Il est entré dans une rage folle. Il a saisi le tricycle, notre petit tricycle qui était à côté. Il l'a jeté sur le type. Et donc, on avait vraiment cette impression qu'on pouvait se défendre et protester.
Pour se défendre, Toni Morrison, il y a aussi la connaissance. Vous êtes une étudiante brillante. Vous êtes admise à l'université de Howard à Washington, D.C., où vous suivez donc les cursus de 1949 à 1953. Dans le paysage académique américain, Howard est considéré comme l'une des premières universités noires établies après la guerre civile. Quelle était alors l'atmosphère à l'orée de la lutte pour les droits civiques sur le campus ?
1953, I graduated from undergraduate school. That was the beginning. But I have to say that I went to Howard University because I wanted to be in the company of black intellectuals, and I had never been. All of my teachers were white. All of the students, there were four black kids in my graduating class. By the time I was 17, I really wanted to see something else. My family wasn't too happy with the idea, not because of it was Howard, but because it was away. They thought I should go to the university in the state. Plus, we didn't have any money, so they thought it was going to be too expensive.
Oui, je suis sortie diplômée de Howard en 53, et c'est vrai que ça a marqué à peu près le début des revendications pour les droits civiques des Noirs. En fait, j'ai choisi d'aller à l'université de Howard parce que je souhaitais vraiment me trouver en compagnie d'intellectuels noirs. J'étais entourée de très peu de noirs, surtout pour ce qui est de la population intellectuelle. Tous mes profs étaient blancs. Il y avait 4 autres étudiants noirs seulement dans ma promotion. Mais j'ai décidé d'y aller à la fin du lycée à 17 ans parce que je voulais vraiment voir autre chose. Et je recherchais, comme je vous le disais, fréquentation d'intellectuels qui étaient noirs. Alors mes parents, eux, n'étaient pas trop heureux, non pas parce qu'ils n'aimaient pas l'idée de cette université qui accueillait les noirs, au contraire, mais parce qu'ils trouvaient tout simplement que c'était très loin de chez nous, et puis aussi parce qu'il n'y avait pas d'argent à la maison, ils se demandaient comment ils allaient me payer mes études.
L'atmosphère à Howard était peut-être en transition. It was ranked very high, very demanding. Then, it was only after the civil rights movement when African American institutions could not count on the best recruitment because then blacks could go anywhere to any school. So they didn't have to choose within the community, so to speak. But that was in the 50s, late 40s, 50s, in the midst of this huge anti-communist fever in the United States. So I was curious about the position of African Americans in that debate, because there was Paul Robeson, there were black speakers, and there were entertainers who seemed to be red, as we call it, pro-com. So it was a difficult era. So we were coming out of the sort of anti-communist thing into the beginnings of what turned out to be the civil rights. Emmett Till's death, I think, was in 55, and would have launched the civil rights movement, I think, except it was about sexuality. Boy, white woman, wink, blah. Right after that was Rosa Parks. That was more acceptable. Black woman servant, nice looking, she just wanted to sit down. So it was a much more generally acceptable act to rally around.
Ce dont je me souviens de l'atmosphère à l'université de Howard à l'époque, eh bien, je crois que c'était vraiment une époque de transition. L'université était assez bien cotée, mais après il y a eu tout un chamboulement puisque on n'interdisait plus aux Afro-Américains d'aller dans l'université de leur choix. Enfin, c'était de ce point de vue-là aussi une époque vraiment de transition. On était encore en fait assez plongé dans la fièvre anticommuniste qui a saisi l'Amérique. Et j'étais curieuse de connaître la position de mes congénères à ce propos. Il y a eu Cobb Wilson qui a commencé à parler à l'époque. Il y a eu plusieurs orateurs noirs qui étaient cultivés, des gens qui travaillaient aussi dans l'industrie du spectacle, qui commençaient à parler un petit peu, à se faire entendre et qui aussi possédaient une certaine culture. Et puis, comme on le disait, toute cette vague anticommuniste qui imprégnait tout finalement. Alors, je crois que la première affaire qui a eu beaucoup de retentissement, c'était la mort de Emmett Till, je crois que c'était en 55. Mais ça n'a pas permis vraiment à tous de se rallier autour du mouvement des droits civils, parce que c'était une histoire, bon, c'était un jeune homme qui avait sifflé une femme blanche et qui, pour ça, s'est fait tabassé à mort. Donc il y avait quand même, malgré l'injustice terrible de la chose, des petits relents comme ça sexuels qui faisaient pas très propre ou qui empêchaient tout le monde d'adhérer à sa cause. Alors qu'un petit peu plus tard, il y a eu l'affaire de Rosa Parks, et là, pardonnez-moi de dire ça, mais elle avait le bon profil. C'était une domestique, c'était une femme très aimable, très tranquille par ailleurs. Elle voulait simplement s'asseoir dans le bus. Et là, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, et ça a vraiment rallié tout le monde à la cause des Noirs.
Alors vous poursuivez vos études à l'université de Cornell, où vous obtenez un master en 1955 avec une thèse sur le suicide chez Faulkner et Virginia Woolf. Même si la question des influences est toujours problématique, Toni Morrison, est-ce que vous reconnaissez ces deux auteurs comme des influences?
I gravitated to American literature and dramatic literature at Cornell. And among the books that were there, there were the ones you've mentioned, Virginia Woolf and Faulkner, and we didn't do Hemingway even. That was not part of the curriculum. We did Dreiser, Theodore Dreiser. But Virginia Woolf was attractive to me in a set language, her use of language, economy. Faulkner was just the opposite. He said everything all the time and repetitiously, but it had a flavor of some of the things that were recognizable to me in the narrative and the way we told stories in my family.
J'ai décidé de me spécialiser donc dans la littérature américaine et la dramaturgie aussi, le théâtre américain. Alors parmi les ouvrages, oui, que j'ai le plus étudié à cette époque, il y avait bien sûr Virginia Woolf, Faulkner, Theodore Dreiser aussi. Mais pour vous dire combien ce champ était neuf, on n'a même pas étudié Hemingway, par exemple. Il n'était pas encore au programme. Chez Woolf, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'usage qu'elle fait de la langue, cette économie de la langue chez Virginia Woolf. Et chez Faulkner, ce que j'aime tout autant, c'est exactement l'opposé, une espèce de foisonnement et la répétition des choses. Mais justement, ça avait un petit goût du Sud. Je crois que ça me rappelait en effet des choses que je pouvais reconnaître, auxquelles je pouvais m'identifier et qui s'apparentaient aux récits qu'on racontait dans ma famille.
In 20th century literature classes, I felt a very, some relief and some profound curiosity about Faulkner because of the way in which he treated race with what then seemed completely without contempt or making fun of or anger. I never read anything quite like that then.
C'est vrai que rien ne peut se comparer à l'immense curiosité et aussi au profond soulagement que j'ai éprouvé en découvrant Faulkner. Et cela, c'est surtout de par la manière dont il aborde la question des races. C'est-à-dire qu'il est le seul, je n'avais en tout cas à l'époque rien lu de tel sous la plume d'aucun autre écrivain. Il arrive à parler de la race sans le moindre mépris, sans la moindre dérision non plus. Et sans colère. Et ça, c'était tout à fait inédit pour moi.
But what joined those two writers was a woefulness, anti-life, sadness, deep melancholy. So that I thought the treatment of suicide in both novels would be interesting. Because she regarded it, or at least in her literature and perhaps in her life, as an escape, some kind of choice that was hers to make. It was control. Whereas Faulkner's cases of suicide was failure, weakness, inability to withstand. So I thought that was simple, but interesting for a thesis that met the needs of the department.
En fait, j'ai fini par faire cette thèse sur le thème du suicide commun à Wolfe et Faulkner. Ce qui les reliait pour moi, c'était cette tristesse, cette mélancolie qui avait empreint toute leur vie et leur traitement du suicide dans leur œuvre. Et c'est vrai que là, le traitement qu'ils font du suicide diffère, dans leur œuvre en tout cas, je pense aussi dans leur vie intime. Pour Virginia Woolf, le suicide, c'était une manière de s'échapper, c'était un choix qui ne lui appartenait qu'à elle, et où elle conservait un certain degré de maîtrise de sa vie, alors que chez Faulkner, le suicide était plutôt synonyme d'échec, de faiblesse et d'incapacité à la résilience.
Ce soir, France Culture rend hommage à Toni Morrison, première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1993. Nous la réécoutons, enregistrée en 2006 au micro de Clémence Boulouk. Elle revenait sur la façon dont elle s'inscrivait dans la lignée de femmes de sa famille.
À voix nue, rencontre avec Toni Morrison par Clémence Boulouk. Bonjour, deuxième de nos entretiens avec Toni Morrison. Aujourd'hui, nous reviendrons avec la romancière américaine sur le temps des enseignements et de son entrée en écriture. Après les années de formation, nous entamons à présent le temps des engagements, un temps qui correspond à cette entrée dans la vie active, peut-être, à l'Université du Texas, où vous commencez à enseigner en 55, en pleine émergence des droits civiques.
Teaching at Texas was instructive in a number of ways. It was the first time I'd been anywhere where they taught African-American history. They did not teach that at Howard. So when I took the job there, I was immersed in a history that I only knew anecdotally, not academically. And also there were these stirrings of the civil rights movement. But there had been those before. I didn't think it was going to be as huge as it became.
Oui, cette première période d'enseignement à l'Université du Texas a été très instructive pour moi, et ce à maints égards. D'abord, c'était la première fois qu'il m'était donné d'enseigner l'histoire afro-américaine, qui était une matière qui n'était pas enseignée à l'Université de Howard. Et je me suis donc trouvée immergée dans cette histoire de mon peuple, mais que je connaissais seulement de manière anecdotique et pas du tout de manière universitaire, académique. Et puis, comme vous le soulignez, il y avait ces remous de plus en plus prégnant des droits civils, et j'étais la première étonnée d'ailleurs, parce que je ne pensais pas que ce mouvement allait aller si loin à l'époque et si vite finalement.
En 1957, vous retournez sur vos traces, vous retournez à Howard. C'est aussi une période dans laquelle vous rencontrez des figures qui vont être importantes. Vous avez eu comme élève Stokely Carmichael, qui allait être un leader du SNCC et des Black Panthers, ainsi qu'Andrew Young, qui sera un futur maire d'Atlanta. Est-ce que vous aviez conscience à ce moment-là d'assister à l'émergence de figures qui allaient compter dans l'histoire noire américaine et dans l'histoire américaine tout court, Toni Morrison?
Non. They seemed, Andrew Young was a classmate when I was an undergraduate. He seemed nice. He was going to school of religion. Stokely Carmichael was a student. He was very articulate, very bright, a little bit of a rogue in class. The last time I saw him, I said, what are you going to do now that you've graduated, Stokely? And he said, I've been accepted at Union Theological Seminary. But this summer, I'm going on the Freedom Rides.
Non, j'avais pas du tout conscience à l'époque que ces gens allaient devenir des figures éminentes de l'histoire afro-américaine. Andrew Young, bon, c'est un camarade de classe, il était très sympa. Après, il s'est orienté vers une école de religion. Et Stokely Carmichael, oui, lui était un de mes étudiants. Il était extrêmement intelligent, brillant, un petit peu chahuteur ou disons un peu rebelle, on le sentait déjà comme cela. Et quand il a eu son diplôme, je lui ai demandé, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Alors il me dit, bon, je vais à l'université de Union. Mais il m'a dit surtout, cette année, il y a une marche pour les libertés, cet été, et je compte bien y participer, voilà.
Ces deux personnages sont entrés en religion d'une certaine manière, ils étaient aussi des étudiants en théologie. Ce n'était pas tout à fait votre cas de rentrer en religion, Toni Morrison, puisque d'une certaine manière, vous étiez plus un observateur qu'une activiste sur le campus.
I was a faculty member.
That makes a difference.
I was not rolling around with the students.
Du corps enseignant. Donc, je n'étais pas censée traîner avec les étudiants. Et...
Mais en 1964, vous quittez l'enseignement et là... Vous devenez éditrice chez Random House. Vous allez publier des livres comme ceux de Mohamed Ali, Angela Davis, Andrew Young, justement. Est-ce que c'était une façon de mener ce combat que vous n'aviez pas pu mener pour des raisons de statut d'enseignant sur le campus?
I thought it was extremely important that those people who were in the news, who were leaders, who had the attention of the media, should be handled in their books. They should leave their stories in a permanent place, and that I was the one who should do that. I didn't trust others to midwife their work. So I published Huey Newton, I published Angela Davis, Muhammad Ali, but also many emerging writers, African Americans.
Like, for instance?
Toni Cade Bambara, Lucille Clifton, June Jordan, those people who probably would never have gotten, at least that early, a publisher.
Je trouvais important que tous ces gens dont on entendait beaucoup parler dans la presse, qui faisaient la une des médias, qui étaient les leaders de leur mouvement, eh bien, laissent une trace. et ou mieux que dans un livre, pouvait-on ancrer comme ça de façon permanente leur vie et leur œuvre. Et c'est vrai que je voulais là jouer un rôle actif. J'ai eu le sentiment que c'était à moi de les faire accoucher de leur œuvre et je ne faisais pas confiance à d'autres pour le faire. Et pour moi, c'était vraiment un travail de sage-femme, oui, que j'ai joué auprès d'eux. Il y a eu Huey Newton, Angela Davis, Mohamed Ali, comme vous l'avez dit, et puis d'autres aussi, moins connus, Tony Kate Bambara, Jordan, who else did you say?
Clifton.
Lucille Clifton, qui à l'époque était beaucoup moins connue et qui après ont été reconnues.
C'est une période d'accouchement, vous l'avez dit, Toni Morrison, mais c'est une période aussi d'accouchement de vous-même, dans la mesure où vous divorcez de votre mari que vous aviez rencontré sur le campus en 1958 à Howard. Dans votre deuxième roman, Soula, vous écrivez à propos de l'une de vos héroïnes. N'étant ni blanche ni mâle, elle se voit dénier toute liberté et toute possibilité de victoire et doit entreprendre de se créer une autre identité. Est-ce que cet impératif, cette nouvelle identité, c'est aussi un appel que vous avez ressenti à cette période-là ?
I felt that there was nothing new about the person I became or was in the process of becoming. It was a direct line from the women in my family who were very fierce and they were very resistant and very clear about their responsibilities. So knowing the difficulties of my grandmother on both sides, I felt that I could not live a life that was not that they would make fun of. And I had the advantages of an education and a professional job, and they didn't. So how could I collapse? I had to keep up, at least try to be on a par in strength with what they had acquired.
En fait, il ne s'agissait pas tant de me recréer une nouvelle identité, mais plutôt d'achever ce processus de devenir moi-même et la personne que je suis devenue. Je crois que ça s'inscrit en droite ligne avec la tradition familiale, notamment celle des femmes dans ma famille, qui toutes étaient très déterminées, savaient ce qu'elles voulaient et avaient une grande résilience comme cela. Et connaissant les difficultés auxquelles s'étaient confrontées mes deux grands-mères, j'avais vraiment le sentiment que je devais être à la hauteur et que je devais être digne d'elles. Et pour forger cette vie, j'avais en plus des avantages dont elles n'avaient pas pu bénéficier, notamment bien sûr l'éducation et le fait d'avoir un métier. Donc moi, je n'avais pas le droit de m'effondrer, il fallait que je sois forte et que je sois effectivement digne des femmes de ma famille.
Digne des femmes de votre famille, digne des femmes tout court d'une certaine façon. Vous écrivez en 1970 The Bluest Eye, enfin vous le publiez, L'œil le plus bleu, l'histoire de Pecola Breedlove, une jeune fille dans les années 30 qui rêve d'être Shirley Temple, qui rêve d'yeux bleus. L'accueil de la critique est favorable, ce n'est pas encore un grand succès de librairie, mais ce qui frappe à l'époque, c'est la réception assez froide des milieux radicaux. Est-ce que, justement, cette froideur a été une surprise, Toni Morrison?
Oh, the whole thing was a surprise to me. The fact that it got published at all, because it was in the midst of books that were being sold that were confrontational vis-à-vis white people. They were male, kill whitey books, I called them. Claude Brown, James Baldwin, starting with even earlier, Richard Wright, and books that were about power. So this was a book by a woman about something I was curious about, which was how pitiful if you absorb the racism that is around you. It was so unlike my own experience. So that inquiry was about something I didn't understand about that little girl. You know, I was more like Claudia. What is the matter with her?
Claudia, qui est la narratrice de L'œil le plus bleu.
Oui, l'ensemble a été une surprise. Déjà, le simple fait pour moi d'être publié était une énorme surprise. Mais ce qui rendait le contexte un peu difficile pour moi, c'est que la mode en matière de littérature noire afro-américaine était surtout à la polémique, des livres très politiques qui jouaient surtout sur la confrontation, l'animosité entre noirs et blancs, comme les livres de Brown ou de George Jackson ou James Baldwin ou avant cette époque-là, Richard Wright. En fait, c'était des livres très polémiques, très agressifs et qui traitaient essentiellement du pouvoir, sans doute parce qu'ils étaient écrits par des hommes. Et moi, je trouvais ça très triste, finalement, que seulement cela surnage cet esprit très polémique, très agressif, et le fait de que tout est fini par absorber, finalement, par intérioriser le racisme ambiant. Et cela était contraire, je trouvais, à mon expérience personnelle. Je n'avais pas suivi cette voie. Et pour revenir à l'héroïne que vous évoquez, Piccola, oui, moi j'étais plutôt comme Claudia, en effet, la narratrice, et à me demander, mais pourquoi est-ce qu'elle recherche tout ça? Pourquoi est-ce qu'elle court après ces fantaisies?
On a parlé de violence, vous avez parlé de violence, Toni Morrison. C'est aussi une période des États-Unis qui est marquée par ces vagues de violence. On pense à l'assassinat de Martin Luther King. Comment est-ce que vous l'avez reçu? Est-ce que vous avez un souvenir de ce jour, de ce moment?
The death of Martin Luther King was so devastating to me. Even though I'm sure it didn't surprise him. America's a very violent country, has always been. What was different was television. We began to see the violence in Vietnam, with assassinations, with riots. So it brought it home in a way that usually you only get that on the radio or, you know, in print. But and then there was more, you remember, after that. That was just the beginning.
Oui, j'étais totalement dévastée par l'assassinat de Martin Luther King. Mais lui, je pense, n'a pas été surpris s'il s'est rendu compte au moment de sa mort qu'on l'assassinait. Je pense que malheureusement, il devait s'y attendre. Et l'Amérique est un pays violent et a toujours été un pays violent. Alors bien sûr, c'est différent d'entendre le récit d'émeutes, d'assassinats ou de la guerre au Vietnam à la radio ou de le lire dans la presse, alors que là, on commençait à diffuser les images à la télévision et donc on était en prise directe avec cette grande violence, oui.
Cette grande violence, c'est aussi celle de cette littérature masculine, c'est aussi celle du monde des hommes. Dans votre œuvre, Toni Morrison, et dès L'œil le plus bleu, on est très loin de la figure du leader-père, on est plutôt proche de la figure du père violeur, comme celui de Piccola, qui rappelle aussi celle du père dans Homme invisible, pour qui chantes-tu, d'Ellison.
I find rape, as described by men, there's something about their descriptions in which they take pleasure. And Ellison's rapist, oh, it's horrible. Oh, it's miserable. Oh, this contrition. But there's some subterranean joy. Mm. I wanted to describe rape in the bluest eye, in the language of a woman, so that it's very soft. And I thought more repugnant because of that, because of the language. Mm-hmm. He's looking at her, and he cannot stand her weakness. Can't stand her weakness. And there is nothing lovely or pleasurable about it. You understand what I mean?
Absolutely.
You take away that joy of rape, even when the rapist is saying, oh, I did this terrible thing. You still feel his sense of power. So I want to take that away.
You deprive the rapist.
That's right. Deprive the rape of its glory.
Il y a quelque chose de très particulier dans la manière dont les hommes décrivent une scène de viol, parce que je pense qu'au fond d'eux, finalement, ils y prennent plaisir. Et c'est vrai que le violeur d'Ellison, bon, il est tout contrit, il fait sa repentance, c'est horrible, etc. Mais on n'y croit pas, parce que ce que l'on perçoit surtout, c'est cette joie souterraine qui ne peut pas s'empêcher d'éprouver. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire passer dans L'œil le plus bleu, c'est-à-dire d'écrire un viol, mais du point de vue de la femme et dans le langage de la femme, un langage beaucoup plus doux, mais qui rend la chose encore plus atroce et encore plus révoltante. Je pensais que c'était plus efficace comme cela. Et puis surtout pour restituer la parole à cette femme qui se fait violer, parce que le violeur, bon, en fait, bon, il n'arrive pas à regarder sa victime, ou s'il la regarde, il se dit, je ne supporte pas sa faiblesse, etc. Après, il fait semblant de faire acte de contrition, mais je voulais démanteler tout ça et priver, arracher ce petit plaisir qu'éprouvent encore les hommes dans la narration d'un viol, et les priver de ça, qu'il ne l'est plus.
Dans Le Chant de Salomon, le troisième roman, 1977, on rencontre d'autres figures masculines assez peu glorieuses, celles des hommes en fuite. Et pour évoquer l'absence masculine, vous vous tournez vers la figure mythique de l'Africain volant. Alors, est-ce que d'une certaine manière, se retourner vers la source du mythe, c'est pas une fable aussi qui permet de rendre la réalité insupportable, supportable ? Est-ce qu'on n'arrive pas là à l'essence du mythe et de son usage dans la littérature ?
Myth holds meaning. It has a truth that is timeless and timely.
Oui, le mythe recèle une signification, un sens qui est porteur d'une vérité, et d'une vérité intemporelle.
C'est celle de l'Africain volant, c'est celle aussi de l'homme en fuite. C'est une façon d'approcher une réalité qui a été décrite, par exemple, dans le rapport Moynihan en 1965, qui a fait grand bruit sur le malaise dans les foyers noirs. Quelle était cette absence que vous vouliez décrire, Toni Morrison ? Cette absence de l'homme dans le foyer.
No, that report was idiotic. That was some Moynihan. He blamed black women for everything. Now, in the literature of the West, the man who leaves home is a hero. He is called Ulysses. He is called anything. He is the warrior who leaves home. He is not accused of abandoning his family. He is someone we're supposed to look up to. So if a black man leaves his family, suddenly it's his irresponsibility. Suddenly it's his defeated. Song of Solomon contained a myth that was ambivalent. There is the thrill, the excitement of a man who can fly. And that story has been around in the United States among black people forever. It still exists in Georgia on the Sea Islands. But on the other hand, he does leave behind his wife and children. So you can't have it both ways. You stay home and mind the children. Is that heroic or just responsible? You leave, you fly away, you go to war, you have an adventure, and you're praised in the world. It's what that you abandon. So I'm not buying into the black man without responsibility thing.
Oui, ce rapport était tout à fait idiot. En fait, on jette le blâme totalement sur la femme noire qui incarne tous les dévoiements. C'est très caractéristique de la littérature occidentale. Quand un homme quitte son foyer, sa famille, eh bien, on le considère comme un héros, on l'appelle Ulysse, on dit que c'est un guerrier, et jamais on ne va songer à l'accuser d'avoir déserté tout le monde, d'avoir abandonné sa famille. Alors que si c'est un homme noir qui quitte le foyer familial, eh bien, tout de suite, on va le juger irresponsable, c'est un échec, c'est la défaite, etc. Et dans le chant de Salomon, j'ai essayé de mettre en scène l'ambivalence de ce mythe, justement. Alors c'est vrai qu'on a cette histoire qui continue de courir, on continue de se le raconter, ce mythe de l'Africain qui vole, qui parvient à voler. C'est très riche et c'est passionnant et ça nous aide aussi, ce mythe. Mais pour revenir à l'image de l'homme noir, bon, au final, bon, il finit par mourir, donc il va vraiment définitivement laisser sa femme, ses enfants, etc. Mais bon, il faut savoir, soit il reste à la maison et on le juge responsable, ou bien il s'en va, mais sans pour autant bénéficier de l'héroïsme de l'homme blanc. Enfin bon, c'est un catch-22, enfin c'est un... Et finalement, hein, quand il part faire la guerre, trouver des aventures, on va faire la louange de l'homme blanc, alors que l'homme noir, lui, on va le juger très sévèrement, estimer qu'il a abandonné les siens. Donc moi, je n'adhère pas du tout à ce mythe qui tient l'homme noir pour l'essence même de l'irresponsabilité.
Ça, c'était une intuition qu'on pouvait avoir en vous lisant Toni Morrison, que le rapport Monihan, c'était... n'était pas forcément votre tropisme intellectuel. Dans votre œuvre, autant qu'une interrogation sur la responsabilité du fuyard, on a aussi le sentiment que c'est une interrogation sur la société qui pousse à partir et qui souvent dupe les hommes. Mais quand la société trompe les hommes, finalement, ce sont les femmes qui en sont les ultimes victimes.
It's very complicated. Double standard. The recognition that men move, they go out, they don't stay in the house. You know, traditionally, that's not, they work, they go away. The woman stays home. So she has a double burden. And it's negotiating those two roles that I was interested in Song of Solomon and elsewhere. A woman does not leave. Normally, she's castigated if she is, condemned if she leaves her children or abandons her children in our society. And that is suggested that she needs the help of a man, and also society condemns her if she doesn't, if she's not able, as you say, to measure up to all of these requirements, and she becomes... She can become, even in her own eyes, a victim. I just refuse to believe that.
Oui, tout ça, c'est en fait, c'est tellement compliqué. Et puis, il y a la question du deux poids, deux mesures, du double standard quand même qui est appliqué. Là, c'est vrai que traditionnellement, les hommes ont toujours joui de la liberté de bouger, de sortir de chez eux. Ils ne restent pas enfermés à la maison, ils sortent travailler, etc. Alors que la femme, elle, est coincée dans la maison et doit affronter cette double charge et s'occuper des enfants. Bon, il y a tous ces rôles traditionnels. La femme, elle, va être jugée très très sévèrement si elle ne s'occupe pas bien de ses enfants, pire encore si elle quitte le foyer. Et puis la femme est toujours vue comme un individu faible qui a toujours besoin de l'aide de l'homme, etc. Et comme je le disais, elle va être jugée beaucoup plus sévèrement si elle s'avère incapable de faire face à toutes ces tâches domestiques. Oui.
Alors faire face, nous le verrons demain, c'est aussi faire face à l'amnésie. Ainsi s'achève notre deuxième rencontre avec vous, Toni Morrison. Merci. Vous pouvez retrouver cet entretien ainsi que les trois suivants de nos rencontres sur le site France Culture à la page À Voix Nue. C'était À Voix Nue, donc un entretien proposé par Clémence Boulouk. Merci à FDR pour la traduction et à l'équipe technique, Marcel Lebras, Marie Lepeintre et Dominique Briffaut.